Je vais lire avec vous le passage de Esther, chapitre 4. Informé de tout ce qui se passait, Mardoché déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardoché pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Attac, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardoché ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Attac rejoignit Mardoché sur la place de la ville qui fait place à la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Attac vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché : tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée n'a droit qu'à un seul verdict : la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai été appelée vers lui. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther, et Mardoché lui fit répondre. Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvée, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardoché, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. » Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Mardoché s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Merci.
Bonjour à tous. Merci Junior, merci Lauriane pour cette première partie qui met en évidence la puissance, en tout cas, qui est notre Seigneur, le Dieu que nous servons, ce Dieu grand, élevé, digne de louange et de notre adoration. Je nous invite à la prière. Dieu notre Père, nous voulons être à ton écoute. Toi le Dieu trois fois saint, élevé au-dessus de tout. Toi le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous donne la vie, le Dieu qui nous accorde le pardon, le Dieu qui prend soin de tous nos besoins, le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Merci Seigneur de nous conduire, afin que nous soyons équipés pour te servir là où tu nous places. En Jésus, notre Sauveur. Amen. Alors, la semaine dernière, au chapitre 3, nous avons vu avec beaucoup d'évidence l'orgueil d'un homme. Et si vous avez assisté aux rencontres dans les maisons cette semaine, vous avez probablement dû apprécier, en tout cas être enseigné sur les effets dévastateurs du moi dans notre vie. Au quotidien, le moi vient détruire notre bonne volonté. Aman, qui s'est organisé pour avoir les faveurs du roi, se trouve en position de force. Et le texte du chapitre 3 n'explique pas comment ça se fait que Aman soit arrivé à cette position de pouvoir. Et cette promotion révèle simplement que dans la cour, il y a des dysfonctionnements. Mais on peut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que Aman agit de cette manière ? Et quand on va questionner le texte, on va réaliser que Aman, en fait, il est descendant des Amalek. Et Amalek, c'est un peuple qui a été souvent dans des affrontements avec le peuple d'Israël. C'est pour ça que vous allez trouver dans cette lettre, dans ce livre de Esther, le nom d'Aman associé à, on dit souvent Aman, la Gadite. Agadite, cela signifie persécuteur des Juifs. Et donc, l'attitude d'Aman semble naturelle. Naturellement, il fait partie de ceux qui persécutent le peuple de Dieu. Et son orgueil le pousse à construire un plan diabolique. Il va flatter l'orgueil du roi qui va lui céder le pouvoir d'agir contre le peuple de Dieu. Et quel est l'instrument que Aman va utiliser pour cela ? L'argent. Et c'est sur ces entrefaits, une fois que l'édit est publié, que Mardoché, quand il va être au courant de ce qui se passe, va entrer dans un état de consternation. Et le titre de la prédication est « Consternation, résistance et foi ». L'édit qui est publié plonge donc non seulement Mardoché, mais tout le peuple juif dans un état de désolation. La communication royale dirigée par Aman parcourt le royaume tout entier. Et Mardoché va être le premier à porter le deuil. Il va laisser exploser sa colère. Et dans la ville, il va se débarrasser de toute l'amertume qui habite son cœur. Mardoché va ressentir au plus profond de ses entrailles la douleur que cet édit va provoquer chez lui. Et on peut comprendre Mardoché, parce que quelque part, il peut être considéré comme celui qui a suscité la publication de cet édit par son refus de se prosterner devant un homme. Dans cette tristesse, Mardoché ne sera pas seul, n'est-ce pas ? Dans toutes les provinces de l'Empire, les pleurs vont être entendus. La souffrance du peuple juif va être déclarée. Ils sont dans les lamentations et dans la douleur. Seulement, Mardoché ne va pas rester dans cet état de désolation. Il va prendre des initiatives. Mardoché se comporte comme un leader. Il aurait pu rester tranquille dans son coin. Après tout, il avait une bonne place au palais. Il était serviteur du roi. Pourquoi partir de là pour aller pleurer pour ce qui va peut-être toucher seulement les autres? Mardoché s'identifie à ce peuple. Il se sent tout aussi concerné que les Juifs du royaume. Dans sa démarche d'exprimer sa douleur, Mardoché se voit l'entrée du palais proscrite. En effet, on n'entre pas dans le palais habillé d'un sac et couvert de cendres. Et cela va avoir des conséquences, parce que la communication avec Esther va être interrompue. Nous voyons au chapitre 2, les versets 11, que Mardoché avait cette liberté d'aller jusque dans le harem du roi et parler, donner des instructions à Esther. Désormais, cela est terminé. À ce stade, nous pouvons retenir trois choses. Les dysfonctionnements à la cour du roi mènent à l'avènement d'un édit inique. Et cet édit trouve son origine dans l'histoire, dans les affrontements entre Amalécites et Israélites. Le deuil et les pleurs touchent Mardoché comme tout le peuple juif. Mardoché se retrouve coupé de la communication avec Esther. Qu'est-ce qui va donc se passer maintenant? Il va s'organiser une résistance face à l'infamie. La reine Esther, dans son palais, n'était pas au courant de ce qui se passait. Pourtant, tout le royaume semble déjà alerté et touché par cet édit. Et les nombreux employés de son service lui font savoir qu'il y a un problème avec Mardoché et que ce dernier porte le deuil. La reine va réagir avec une forte émotion. Comme une personne aimante, elle va faire en sorte que Mardoché reçoive des vêtements dignes de sa position, digne de la place qu'il occupe, pour regagner le palais. Cette démarche va se conclure par un échec, parce que Mardoché refuse une solution de peinture. C'est comme si on mettait de la peinture sur un mur pourri. Ça ne sert à rien. Ça va briller un temps, mais ce qui est derrière est nettement plus grave. Il faut aller traiter le problème à la source. Et donc, la reine va faire une deuxième tentative pour rétablir la communication avec Mardoché. Et l'organisation de l'administration dans le palais ne lui permet pas d'aller elle-même. Elle va donc s'attacher les services d'un certain attaque. Attaque qui sera chargé d'aller trouver Mardoché pour revenir avec deux informations essentielles. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui provoque cette réaction? Et la réponse de Mardoché va être précise. Elle se veut documentée. La reine est mise au courant de la réalité du terrain. Désormais, elle sait ce qui est arrivé à Mardoché et ce dont il a été question au chapitre 3. Mardoché va décrire la démarche d'Aman. Et il s'agit ici vraisemblablement d'une information confidentielle. Il n'est pas dit dans l'édit que Aman a proposé de verser de l'argent au trésor. C'est juste un édit qui est publié. Et Mardoché va donner les détails précis de la démarche d'Aman à la reine. Il va également lui soumettre une copie de l'édit. L'attitude de Mardoché a une visée en trois verbes. Montrer, informer et ordonner. Montrer, montrer que ce qui se passe à la cour est désolant. Donner une information claire sur ce qui a réellement eu lieu, ce qui s'est déroulé, et puis alors ordonner, ou en tout cas suggérer à la reine d'aller auprès du roi pour solliciter sa grâce. Et nous allons voir ici des mutations s'opérer dans l'attitude de la reine. Dans un premier temps, nous avons des hésitations. Les versets 10 à 12, la reine se trouve dans une situation difficile. Dans le royaume, nul n'a le droit de s'approcher du roi si le roi ne lui tend pas le sceptre. S'approcher du roi sans l'initiative royale s'avère être une démarche qui mène directement à la mort. La reine, elle est certes dans son palais, mais elle est comme dans une prison dorée. Elle porte un titre, mais elle doit se soumettre au fonctionnement du palais. Par ailleurs, elle fait savoir à Mardochée que ça fait 30 jours qu'elle n'a pas eu de face-à-face avec le roi. Il est difficile d'imaginer dans ces conditions quel est l'état psychologique du roi et si elle peut en attendre une quelconque faveur. La reine hésite et fait savoir à Mardochée que ce n'est peut-être pas une bonne chose à faire. Qui ne pourrait comprendre Esther ? Elle a des moyens limités. Certes, elle est reine, mais qu'est-ce qu'elle peut bien apporter ? Peut-elle infléchir cette position du roi ? Il y a déjà un édit qui a été publié. Et nous savons que dans les lois des Mèdes et des Perses étaient irrévocables. Une fois que c'était publié, on devait simplement s'y plier et obéir. D'autre part, Esther n'a pas encore fait savoir qu'elle est juive. Cela reste encore un secret. Et l'appel de Mardochée donc s'avère comme quelque chose qui est au-dessus de ses forces. Et quand on regarde dans l'histoire, on se rend compte que Esther, elle agit comme un humain. Et dans l'histoire biblique, nous voyons aussi des héros de la foi qui ont agi de la même manière. Nous voyons Moïse, par exemple, dans Exode, les chapitres 3 et 4, qui a toute une discussion avec l'Éternel, parce que le Seigneur lui dit « Va en Égypte ». Et Moïse trouve toutes sortes d'explications pour dire « Je ne veux pas y aller ». Et nous avons aussi Gédéon, quand le Seigneur l'envoie pour aller combattre dans le livre de Juges, chapitre 6, Gédéon va demander que la toison soit mouillée et puis qu'elle soit sèche. Des réactions d'humains face à des situations difficiles. Et dans cet état, Mardochée va prendre de la hauteur. Et le verset 12 traduit ici une sorte de changement majeur. Il nous est dit, on rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther. Et là, on se pose la question, mais où est passé Attaque? Il y avait un eunuque qui était là au service de la reine. Il a disparu. On a le sentiment qu'on entre ici dans une conversation à cœur ouvert. Un dialogue direct entre Mardochée et la reine. Verset 13, le fait d'être assimilé, on fait comprendre Mardochée, intégré dans la société, ne garantit pas la survie face à cette édite qui est publiée. Et cette situation en Babylonie, à ce moment-là, nous rappelle étrangement ce que nous vivons aujourd'hui. La montée des extrêmes. Ces extrêmes qui vont jusqu'à demander à des personnes qui vivent dans la société, qui sont intégrées dans la société, à rentrer chez elles. L'antisémitisme qui habite Amman ne semble pas avoir disparu. Il est toujours présent dans notre monde. Ces attitudes de rejet sont une plaie de nos sociétés qui ont pourtant été au bénéfice de la présence de ces populations dites étrangères et que l'on veut mettre à la porte parce que ça ne nous convient plus. Ces populations sont devenues des populations honnies, rejetées, repoussées. La vie au palais peut, de temps à autre, cacher la misère qui gangrène les couches populaires. Tôt ou tard, semble dire Mardoché, cette misère aussi arrivera jusqu'à toi. Ceux qui ont tendance à renier leurs origines lorsque la souffrance se présente, ils ne seront certainement pas exclus. Or, lorsqu'elle frappera au cœur, dans sa douleur, dans sa profondeur. Mardoché appelle Esther à dénoncer l'injustice qui est inscrite dans cet édit du roi. Et pourquoi il appelle Esther? Parce que dans cette situation, certaines voix sont autorisées. Toutes les voix n'ont pas la même portée. Celle de la reine sera probablement mieux entendue. Et pour ceux qui suivent l'actualité, vous êtes certainement au courant de la dernière sortie des services anti-immigration aux États-Unis et le meurtre qui en est suivi de cet infirmier qui a poussé et a suscité un certain émoi dans la société. Qui est-ce qui a pris la parole à la suite de ce meurtre ? Des anciens présidents, des voix autorisées qui disent « Nous ne pouvons pas accepter une telle injustice. » Comme chrétien, il est de notre devoir de dénoncer le péché. Pas seulement quand on le voit chez les autres, mais surtout quand il se manifeste dans nos vies. Nous avons entendu tout à l'heure la lecture en 1 Jean, où il est dit que celui qui pratique le péché, il n'est pas de Dieu. Nous devons nous débarrasser de ces vêtements qui sont en horreur à l'Éternel. Dans le cadre de la communauté, dans nos relations les uns avec les autres, dans une attitude bienveillante, osons parler de ce qui ne va pas, de ce qui fait mal. Il est possible d'arriver à trouver des solutions justes au moment des crises. Le silence en pleine crise n'est certainement pas une solution. Mardoché poursuit son élan, verset 14. Et il dit, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Mardoché semble affirmatif, positif sur le sort des Juifs. Ce qui est étonnant, c'est que Mardoché ne parle pas du Seigneur. Et d'où pense-t-il alors que viendront ce secours et cette délivrance? S'il faut donc attendre cela, pourquoi donc mettre la pression sur Esther? Considérons l'argumentation de Mardoché comme un appel à la réaction de la reine. Elle ne peut rester en marge de la tragédie qui se dessine parce qu'elle est tout aussi concernée que tous les Juifs dans le royaume. La posture du leader de Mardoché s'exprime ainsi. Qui sait ? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Mardoché formule ici une hypothèse. Il exprime son vœu dans une situation difficile. Il n'a aucune idée de ce qui va se passer par la suite. Toutefois, cette hypothèse s'avère bonne. Esther se lève. Est-elle convaincue par l'argumentation de Mardoché? Est-elle déterminée? Est-elle résignée? Est-elle habitée par la foi? Les arguments pesés, parfois offensifs, de Mardoché finissent par éteindre toutes les peurs et les hésitations d'Esther. Elle se positionne désormais comme la reine dont elle porte le titre. Elle ne se contente pas de la vie luxueuse dans son palais. Y a-t-il ici une prise de conscience de son identité, comme l'esprit Mardoché? Est-ce une attitude, est-ce que c'est plutôt la foi dans son peuple? Étant donné que Mardoché lui dit que le secours et la délivrance viendraient d'autre part. La reine réalise qu'elle peut avoir quelque chose à faire. Elle pense son action et elle communique à Mardoché la démarche à réaliser. Et là, nous sommes au verset 15. La vie dans le palais s'apprête donc à vivre, à ouvrir en tout cas un nouveau chapitre. Depuis le départ, nous en avons déjà vécu deux chapitres particuliers. Le premier, c'était Vasti, qui s'est opposée au roi. Elle a été déchue. Le deuxième, c'est Mardoché qui résiste devant Aman et qui se retrouve éjecté aussi du palais. Et maintenant, un troisième front va s'ouvrir. Esther s'apprête à braver les règles et les usages en vigueur au palais royal. Elle demande d'observer 3 jours de jeûne. Et là, on est perplexe. Quel sens Esther donne-t-elle au jeûne? Depuis le départ jusqu'à présent, on ne nous explique nulle part que Esther a une vie de foi. On ne nous montre pas une Esther qui prie, ni même Mardoché. On ne nous parle pas du Seigneur. Le livre d'Esther est muet sur ses pratiques. Toutefois, quand on regarde dans la tradition juive, on réalise qu'il y a cette pratique du jeûne. Et pourquoi est-ce qu'on pratique le jeûne? On pratique le jeûne quand on réalise que la vie change de cours et n'est plus ce qu'elle était. Il y a des crises où il y a une crise profonde dans la société. Et là, les hommes prennent conscience qu'ils ont enfreint la loi de Dieu. Et le jeûne est une expression de la repentance, une expression de l'humiliation, une expression de l'attitude humble qu'on veut avoir devant le Seigneur. Mais on peut aussi rester dans simplement observer qu'on est dans une tradition. On ne peut pas vouloir dire au texte ce qu'il ne dit pas. Nulle part il est dit que Esther demande le jeûne parce qu'elle est dans sa relation avec le Seigneur. Et donc on ne va pas s'avancer dans cette démarche-là. On peut simplement dire qu'on est dans un processus de tradition, d'observation d'une tradition qui existe dans un peuple. Et cela me fait penser à une conversation que j'avais eue avec un jeune il y a quelques années. Il voulait se marier. Il était en âge de se marier, il voulait prendre femme. Et il voulait se marier à l'église. Il y tenait vraiment. Et moi, qui le connaissais assez bien, je lui dis, mais pourquoi tu veux aller te marier à l'église? Et là, il me répond, on a toujours fait ça dans la famille. Je dis, oui, mais on a toujours fait ça dans la famille. Et toi alors, est-ce que tu as une relation avec Christ? Il dit non. Il dit, mais quel sens tu donnes donc à ce que tu es en train de faire? Ah ben, on a toujours fait comme ça. Et on peut voir cette attitude d'Esther dans ce sens-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même dans nos faiblesses, le Seigneur manifeste sa grâce. L'engagement d'Esther pour les siens est un engagement sincère, un engagement décisif. Elle est prête à donner de sa vie pour son peuple. Elle n'est pas certaine des résultats, mais elle s'engage. Et donc, à ce stade, il est difficile de parler d'une résignation. C'est plutôt un engagement. Et qu'est-ce qui peut pousser un humain à aller si loin, si ce n'est sa foi? Sa foi en quelque chose ou sa foi en quelqu'un? Esther ne se présente pas comme une victime en disant « Ah, vraiment, je vais y aller, malheur pour moi ». Non, pas du tout. Elle est plutôt une actrice de ce qui vient, de ce qui se prépare. Sa démarche ne doit rien au hasard ni à la peur. Elle est décidée. Lorsque l'on lit Hébreux au chapitre 11, il définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Esther est déterminée. Esther va au bout de son engagement. Elle veut aller au bout de cet engagement. Sans fébrilité dans sa démarche. Alors, parvenus à ce stade, nous pouvons retenir 5 points. Premièrement, la bonne information nourrit la réflexion et elle pousse à la décision. Lorsque la parole de Dieu est enseignée avec fidélité, elle éclaire l'individu qui peut alors décider de son engagement. Le chrétien peut et doit se tenir au courant de ce qui se passe. Les informations ainsi récoltées, que ce soit de son environnement, que ce soit de sa foi, l'amènent à s'engager. À s'engager parfois pour la bonne cause. En l'occurrence ici, la défense de ce qui est juste. Et c'est une bonne information qui va permettre à Esther d'aller vers quelque chose qui peut susciter la peur, mais qui est tellement fort qu'on ne peut y résister d'avancer. Deuxièmement, dénoncer l'injustice est quelque chose de moral. Mardoché se trouve confronté à une situation que qu'un leader ne peut accepter, la mise à l'index d'un peuple sous le prétexte de ses origines. Pourquoi veut-on exterminer les Juifs? Pourquoi veut-on mettre certains peuples à l'index? Tous, nous avons droit à une vie d'épanouissement, une vie de paix. Troisièmement, en situation de crise, comme un réflexe, cherchons le Seigneur. Prie et humilie-toi devant l'Éternel. Ce qu'Esther pratique dans le cadre de la tradition, comme enfant de Dieu, pratique-le dans le cadre de ta relation d'intimité avec ton Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des pratiquants assidus des incantations. Beaucoup se plaignent de ce qui ne va pas et peu s'engagent dans la prière pour demander au Seigneur que cela change. Beaucoup montrent du doigt, mais sont aux abonnés absents quand il faut prendre une décision, quand il faut aller de l'avant. Mardoché éveille la conscience de la reine Esther. Si tu n'agis pas, la famille de ton père et toi-même, vous mourrez. Personne ne sera épargné. Quel est ton engagement dans ta famille en situation de crise? Es-tu silencieux, inactif, ou es-tu de ceux qui osent prendre la responsabilité? Cela commence toujours dans la prière. Et quand je parle de famille, ça peut être la famille biologique comme la famille spirituelle. La démarche est la même. La position d'incantateur attentiste ne convient pas aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des personnes habitées de la foi, une foi agissante, une foi qui les conduit sur le chemin que le Seigneur leur présente. Cinquièmement, Mardoché n'a pas de certitude absolue sur le fait que même si la reine intervient, cela portera du fruit. Mais il croit fermement qu'il ne faut pas croiser les bras. Il ne faut pas se laisser conduire simplement. On peut faire quelque chose. Le Seigneur a pourvu les humains d'aptitudes, aptitudes à penser, aptitudes à réfléchir, aptitudes à agir. Mardoché semble dire à Esther, accomplis la part qui est la tienne. Dans diverses situations de nos vies, le Seigneur ne dévoile pas toujours le résultat. Mais il nous invite à une attitude de foi, une attitude d'action. Pas une attitude passive. Il y a une crise, qu'est-ce que je fais ? Oh, je regarde. Et en toute chose, le Seigneur bénit. J'ai souvent dit à des jeunes que si nous ne faisons rien, qu'est-ce que nous voulons que le Seigneur bénisse ? Coucher sur nos lits, attendant que le monde change tout seul ? Non. Il fut une époque, quand j'étais étudiant, où une sorte de, je peux dire, révolution dans le monde étudiant africain, beaucoup parmi nous passaient des nuits entières et des jours dans la prière. Et nous qui allions étudier, on disait, mais la période d'examen approche, quand est-ce que tu vas étudier ? Ah non, je prie. Ah ben c'est bien. Mais quand tu seras devant ta feuille, qu'est-ce qui va se passer alors ? Le Seigneur te révélera ce que tu dois écrire. Le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un Dieu des paresseux. Il n'est pas un Dieu de gens qui veulent rien faire. Le Seigneur bénit ce que vous faites ou ce que vous voulez faire. Quand on planifie des réunions de prière, venez prier. C'est un effort à faire, mais c'est un effort que bénit le Seigneur. J'étais content ce matin de partager avec une sœur qui me disait qu'elle était heureuse d'avoir assisté hier aux journées de formation. Quand il y a des journées de formation, des enseignements qui sont donnés, si vous ne venez pas, comment vous grandissez dans votre foi? Le Seigneur nous invite à être des personnes qui agissent, pas des gens qui restent là à regarder. En conclusion, voyons la sagesse de Mardoché. Mardoché agit en véritable leader dans une circonstance révoltante. Il entre en résistance contre le mal. Il ne va pas se servir de sa position de père. Il aurait pu agir avec autorité vis-à-vis d'Esther. Mais il la laisse libre de ses choix. Seulement, il veut la convaincre. Et il lui donne des arguments objectifs. Regarde ce qui se passe. Tiens compte de ceci. Agis de telle manière. Il soumet des éléments objectifs qui vont ouvrir la conscience d'Esther face aux enjeux, face à la difficulté. Il répond aux inquiétudes et aux objections d'Esther. Et il souhaite la voir manifester la solidarité vis-à-vis de son peuple. Mardoché invite le chrétien à se poser. En situation de crise, la sagesse auprès de Dieu est indispensable. S'informer, se former, agir avec tact, agir avec précision. D'où nous viendront toutes ces choses-là? Jacques 1, verset 5 déclare, « Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » Deuxième chose, dans l'épreuve, soyons en confiance. Nul ne choisit son lieu de naissance. Esther fait partie du peuple juif. Le Seigneur l'a voulu ainsi. Mieux, le Seigneur se construit un peuple et au sein de ce peuple, des valeurs sont enseignées. Des valeurs qui constituent une sorte de charte de vie. Ces valeurs parlent de justice. C'est ainsi que l'apôtre Paul peut se réjouir de participer aux souffrances. Parce que parfois, effectivement, dans notre vie, en tant que chrétien, la souffrance, elle est présente. 1 Pierre, chapitre 3, versets 13 à 14, dit ceci, « Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien ?» D'ailleurs, même si vous devrez souffrir pour la justice, vous serez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. On a l'impression d'entendre Mardochée qui parle à Esther. Il amène à Esther à aller jusqu'à affronter l'autorité inique parce qu'il y a une situation d'injustice. Dans les crises, où trouver les solutions? La tentation est parfois de baisser les bras, parfois d'essayer de résoudre par soi-même. Hébreux 4, verset 13, verset 16 nous encourage. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Ce qui est certain, c'est que le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Le livre d'Esther nous éclairera davantage au prochain épisode. Amen.